Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et au sommaire de ce bulletin de ce mardi 13 mai, Susan Lee est la nouvelle chef du Parti libéral après un vote très serré, 29 contre 25 pour Angus Taylor. Elle est la première femme à diriger le parti. Ted O'Brien sera le chef adjoint. David Littleproud a été réélu chef du Parti national, devançant son challenger, le sénateur Matt Canavan. Kevin Hogan a remporté le vote pour le poste de chef adjoint. Le Premier ministre Anthony Albanese a confirmé sa présence à l'investiture du pape Léon XIV ce week-end, le 18 mai, heure locale, place Saint-Pierre, à Rome. Susan Lee est la nouvelle chef du Parti libéral après un vote très serré, 29 contre 25 pour Angus Taylor. Elle est la première femme à diriger le parti. Elle a été ministre de l'Environnement, ministre de la Santé et des Soins aux Personnes Âgées et ministre des Sports. Madame Lee est députée de la circonscription régionale de Farah en Nouvelle-Galles du Sud et a 24 ans d'expérience au Parlement. Ted O'Brien sera le chef adjoint du Parti libéral. David Littleproud a été réélu chef du Parti national, devançant son challenger, le sénateur Matt Canavan. Kevin Hogan a remporté le vote pour le poste de chef adjoint. Le partenaire de la coalition a conservé presque tous ses sièges à la Chambre basse, représentant ainsi les électeurs des régions australiennes. David Littleproud se dit fier du bilan du parti et affirme que son approche sera revue à l'avenir.
We are a collective, not an individual has achieved any of this, but we as a collective. And I'm proud to say that our party room now will consider further policy moves as we go to the next phase. But today was the important first step after an election. An election loss we've got to acknowledge. We lost any opportunity to form government, and we acknowledge that. But I'm proud of the Nationals and our result. And there'll be some big questions that we'll have to move forward on, but we'll do that in a calm, methodical way.
Le Premier ministre Anthony Albanese a confirmé sa présence à l'investiture du pape Léon XIV le week-end prochain, place Saint-Pierre à Rome. Cette visite fera suite à un voyage en Indonésie demain mercredi, témoignant de l'importance des relations bilatérales entre les deux pays. Anthony Albanese a indiqué qu'il profiterait de sa présence à l'investiture du nouveau pape pour discuter avec les autres dirigeants mondiaux présents, notamment de questions commerciales.
Prime Minister Carney will be there, President Macron and a range of others as well. Ursula von der Leyen, I will meet, we've had contact with her quite clearly in today's uncertain world, with tariffs and trade issues being so central, no doubt there will be discussions, and I'll take the opportunity, as well as having what will be an incredible honour for me to see the inauguration of a Pope in the Vatican City.
Le Premier ministre a annoncé la composition de son nouveau cabinet avec Michel Rowland au poste de procureur général. Anne Ali rejoint le cabinet après avoir occupé le poste de ministre délégué aux Affaires étrangères avec les portefeuilles des petites entreprises, du développement international et des affaires multiculturelles. Le ministre de la Santé, Mark Butler, sera également chargé du NDIS après le départ à la retraite de Bill Shorten. Jenny McAllister est la nouvelle ministre du NDIS. Des ministres actuels ont été transférés vers de nouveaux portefeuilles. Amanda Rishworth supervisera l'emploi et les relations professionnelles. Tania Plibersek, les services sociaux. Murray Watt est ministre de l'Environnement. Et Annika Wells est ministre de la Communication. Deux ministres, Ed Husic et Mark Dreyfus, ont été démis de leurs fonctions, comme confirmé la semaine dernière. Les Verts devraient conserver un siège à la Chambre des représentants. Selon des analystes, Elizabeth Watson-Brown conserverait son siège de Ryan dans le centre de Brisbane. Les députés Verts, Max Chandler Matter, Stephen Bates et Adam Bent ont déjà concédé la perte de leur siège à la Chambre basse. L'ancien ministre travailliste Ed Husic estime que le gouvernement devrait œuvrer pour la création d'un État palestinien d'ici juin. Ed Yusik a déclaré sur SBS qu'il pensait que sa position ferme sur les violences israéliennes à Gaza pourrait avoir contribué à sa rétrogradation. Ed Yusik affirme qu'il continuera à s'exprimer sur Gaza depuis le backbench. Il accuse également le vice-premier ministre Richard Marles d'avoir alimenté la concurrence entre les différentes factions au sein du Parti travailliste, ce qui l'a conduit à se porter volontaire pour quitter le cabinet, et il a critiqué le leadership du Parti travailliste.
Where we are experiencing mass starvation there, and where that could be addressed by the freer flow of humanitarian aid. You know, why is that not happening? That is a conscious decision. It's not an accident. And the use of starvation is recognized as a war crime under international humanitarian law. And so the Israeli government needs to be held accountable for that.
Les Verts organiseront également un vote au sein de leur parti cette semaine, jeudi, pour choisir un nouveau chef après la défaite de Adam Bent pour le siège de Melbourne. S'adressant sur Sky News, le sénateur des Verts, David Shoebridge, a déclaré souhaiter voir une femme diriger le parti.
I think, you know, the bulk of our party room are women, and I think it's time it would be good to see a woman lead the Greens. I've been pretty clear about that. And I look forward to whoever we choose, really bringing us together, and we're pretty united, and then making a clear platform in the next 3 years and using the sole balance of power in the Senate.
Ailleurs dans le monde, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que l'Inde avait simplement suspendu son action militaire et qu'elle riposterait en cas d'attaque terroriste contre le pays. Il s'agissait des premières déclarations publiques depuis l'accord conclu samedi entre l'Inde et le Pakistan sur l'arrêt de toute action militaire dans le cadre d'un cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Les autorités indiennes et pakistanaises ont déclaré qu'aucun tir n'avait été signalé pendant la nuit dans la région fortement militarisée qui sépare leur pays. L'Inde reste sur ses gardes, selon Narendra Modi.
We have just suspended our retaliatory action against Pakistan's terror and military camps. In the coming days, we will measure every step of Pakistan on the criterion of what sort of attitude Pakistan will adopt ahead. Operation Sindoor has carved out a new benchmark in our fight against terrorism and has set up a new parameter, a new normal.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à rencontrer Vladimir Poutine pour des négociations de cessez-le-feu. Le dirigeant a déclaré qu'il rencontrerait personnellement Vlad Poutine en Turquie ce jeudi. Le président ukrainien réagit à une déclaration du président russe suggérant qu'une première série de négociations de paix pourrait se tenir à Istanbul. Volodymyr Zelensky estime que le fait que les Russes aient enfin commencé à envisager de mettre fin à la guerre est un signe positif, mais rien ne garantit que le gouvernement de Moscou acceptera un cessez-le-feu de 30 jours. Le Kremlin a déclaré étudier la proposition, mais ne répondrait pas aux pressions. Les sanctions proposées contre les Russes sont saluées par le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.
I will be in Turkey this Thursday, May 15th, and I'm expecting Putin in Turkey personally. I hope this time Putin will not look for reasons why he can't do something. We are ready to talk to end the war. Thursday, Turkey. President Trump supported it. All leaders support it.
Eden Alexander, soldat israélo-américain de 21 ans, retenu en otage depuis plus de 19 mois dans la bande de Gaza, a été libéré par le Hamas. Cet accord pourrait jeter les bases d'un nouveau cessez-le-feu avec Israël dans le conflit avec le Hamas. Précision, Michel Paul, Radio France Internationale.
Eden Alexander est libre après 584 jours, faible mais sur ses jambes et en tenue civile. Le soldat américano-israélien a été libéré par le Hamas, une libération beaucoup plus discrète que lors des précédents accords, sans le cérémonial habituel du Hamas, et comme dans le passé, l'ex-otage a été remis à la Croix-Rouge et ensuite convoyé vers une unité de l'armée israélienne. Première étape en Israël même, la base militaire de Re'im à la frontière avec Gaza, avec une première rencontre avec les membres de sa famille et aussi les émissaires américains Steve Witkoff et Adam Boller. Et par la suite, un hôpital de Tel Aviv pour une série d'examens médicaux. Il faut le préciser, tout cela se produit au-dessus de la tête d'Israël, si l'on peut dire. C'est le fruit de négociations directes entre les États-Unis et le Hamas. Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec le président américain, il l'a remercié et il s'est engagé à envoyer dès demain une équipe de négociateurs à Doha pour tenter de relancer les pourparlers pour la libération des autres otages. C'est bien sûr ce que souhaite le Forum des familles d'otages.
La dernière évaluation de la crise alimentaire à Gaza suggère que l'ensemble de la population est confrontée à un risque critique de famine d'ici fin septembre, avec un demi-million de personnes menacées de famine. Le système de la sécurité alimentaire décrit une détérioration significative de la situation du 1er avril au 10 mai de cette année, tout en projetant plusieurs mois à l'avance. Il prévoit 71 000 cas de malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 à 59 mois d'ici septembre et 17 000 femmes enceintes nécessitant un traitement pour malnutrition aiguë. Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire et de marchandises commerciales dans la bande de Gaza depuis plus de 10 semaines. Des responsables américains et chinois affirment que des progrès substantiels ont été réalisés pour apaiser les tensions commerciales entre les deux pays après deux jours de discussions en Suisse le week-end dernier. C'est la première fois que de hauts responsables des deux plus grandes économies mondiales se rencontrent en personne depuis que le président américain Donald Trump a augmenté de 145% les droits de douane sur la Chine. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les deux parties vont réduire les droits de douane de 115% à partir de demain. Mercredi, cette décision entraînera une baisse des droits de douane américains sur les importations chinoises à 30% et ceux de la Chine sur les produits américains à 10%. Le représentant chinois au commerce international, Li Chenggang, a déclaré que le nouvel accord était dans l'intérêt des deux pays.
In the meeting, the two sides accommodated each other's concerns and development interests. The two sides upheld a rational, objective and pragmatic spirit, moved towards each other and actively sought for the largest common denominator in their cooperation, accumulating conditions for the sustainable development of the China-US economic and trade relationship.
Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a annoncé hier lundi sa dissolution officielle mettant fin à plus de 40 ans de lutte armée contre l'État turc. Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 26 degrés, Adélaïde 24, Melbourne 22, Hobart 24, Canberra 20, Sydney 22, Brisbane 25, Darwin 33 et à Alice Springs, maximal de 25 degrés. Fin du journal, merci de l'avoir suivi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.